Bonjour, l'inquiétude est dans le potager. Après les révélations sur la pollution aux dioxines, les jardiniers lausannois se demandent s'ils peuvent continuer à cultiver en toute sécurité. Une nutritionniste nous répondra. Non, les renseignements n'ont pas surveillé les grévistes du climat. Béatrice Métro répond aux accusations des activistes vaudois. Mais l'affaire n'est pas terminée, nous dira Julie Rosis. 30 km/h, pas plus, il faudra désormais rouler au pas à Sion. Les autorités limitent la vitesse en journée dans presque toute la ville. Fini les cases postales gratuites, la Poste fera payer ce service dès le 1er janvier. Explication à suivre de Gaël Klein. Dans l'actu aussi ce midi, le Conseil fédéral qui défend sa version des soins infirmiers. Emmanuel Macron qui regarde la France jusqu'en 2030. Et la directrice du FMI qui a sauvé son siège de justesse. Leurs rencontres sont devenues des classiques, elles ont même un surnom, les Fédal, la rivalité Federer-Nadal racontée en 40 matchs. C'est ce que proposent dans leur livre Rémi Bourrière et Christophe Perron. Ils sont nos invités dans 20 minutes. La météo, nuageux cet après-midi, de la pluie la nuit prochaine, 14 degrés au plus chaud. Bienvenue. Est-ce que je peux continuer à cultiver ma parcelle sans crainte? C'est la question que se pose depuis hier plus d'un jardinier amateur à Lausanne. Interrogation suite aux annonces du canton sur la pollution aux dioxines des sols de la ville, pollution plus conséquente que prévue, qui inquiète notamment l'association des jardins familiaux lausannois. Valérie Auert a contacté ce matin son président Jean-Marie Brodard. Elle lui a demandé comment il avait réagi en apprenant la nouvelle.
Bien entendu, une réaction mitigée, une réaction vraiment déplaisante, surtout que c'est encore relayé par la presse, les journaux. C'est dommage, parce qu'en définitive, avec encore la pandémie, plus ça qu'il y a encore, c'est désagréable et pour tout un chacun, quoi. Et éventuellement, on va écrire, nous, à notre municipalité, pour connaître exactement ce qu'il faut faire et pas faire. Mais on a déjà préconisé que ces légumes qui étaient mentionnés, eh bien, il fallait abandonner cela, quoi. C'était dangereux, les œufs, les courges, les courgettes, etc.
Est-ce que c'est quelque chose dont vous étiez conscient depuis toutes ces années ou c'est la surprise aujourd'hui?
Ah non, alors ça, c'est la surprise générale. En tout cas, moi, je n'étais pas du tout conscient de cela. Il est vrai que d'antan, quand il y avait toutes ces fumées, on s'inquiétait un peu, mais sans savoir exactement ce que ça allait répandre dans la nature, hein, ça c'est bien clair. Nous, dans le cadre des jardins familiaux, on a fait assez régulièrement des analyses, hein, pour savoir déjà, pour améliorer nos terres, etc. Mais on nous a jamais parlé de dioxine, au contraire, personne ne nous a parlé que nos sols étaient pollués.
Et pour parler de cette pollution aux dioxines et des conséquences dans nos assiettes, Marie Moati est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacie et biologie médicale, nutritionniste à Genève. On entend les inquiétudes de ces jardiniers lausannois. Vous les partagez en tant que nutritionniste?
Oui, tout à fait. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi être anxieux. Hein. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on a quand même 80% des maladies chroniques, hein, qui peuvent être causées directement ou indirectement par la pollution environnementale. Je comprends leur inquiétude.
Et ces particules de dioxine, elles sont particulièrement dangereuses si on consomme, on l'a compris, des cucurbitacées, les courges et autres. Les œufs aussi posent problème. Oui. Pourquoi particulièrement ces aliments-là?
Alors, les plantes, en fait, n'ont pas toutes la même sensibilité aux polluants du sol. Certaines plantes sont insensibles, et heureusement, et d'autres vont accumuler les polluants. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte pour expliquer qu'une plante va accumuler plus de polluants que d'autres. Il y a le type de sol et la nature du contaminant. Alors, j'imagine, concernant cet événement en particulier, il y a des études toxicologiques qui ont été faites en fonction du bassin agricole de Lausanne, mais des dioxines, il y en a ailleurs. Hein.
Où ça, ailleurs? Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans d'autres aliments?
Ah ben, malheureusement, on les trouve un petit peu partout, et j'en veux pour preuve quand même le rapport de août 2019 émis par l'Office fédéral de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et de l'environnement. C'est un rapport que vous pouvez trouver en libre accès sur Internet, qui concerne les PCB et les dioxines dans les denrées alimentaires d'animaux de rente, et il y en a dans tous les animaux, dans les végétaux, dans les fromages, dans les crèmes, yogourts, beurre. Il y en a un petit peu partout, hein, dans beaucoup de denrées alimentaires.
Donc il faut quelque part relativiser cette pollution des sols à la dioxine à Lausanne, puisque ces particules, on peut les trouver ailleurs, c'est ce que vous nous dites, Marie Moati?
Ce qui est important, je trouve, c'est que, vous savez, à chaque scandale, on a eu les problèmes du glyphosate avec Monsanto. Là, aujourd'hui, on parle des dioxines. Mais je pense qu'il est important de regarder le problème dans son ensemble, parce que dans les terres agricoles, on retrouve certes des dioxines, du glyphosate, des pesticides, des médicaments vétérinaires, des compléments alimentaires distribués dans les élevages, des nitrates, des engrais. Et c'est l'accumulation de tous les polluants qui vont poser un problème pour le corps. Parce que si on regarde le problème des polluants un par un, en fait, on ne regarde pas tout le reste. Et je ne vous parle pas des polluants atmosphériques. C'est vraiment le problème dans son ensemble, je pense, qui est important de prendre en compte.
Alors, quelle solution face à nous parmi vos patients, il y a beaucoup de gens anxieux autour de l'alimentation, de ce qu'on met dans nos assiettes. Comment les rassurer? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Marie Moati?
C'est un stress supplémentaire qui vient s'ajouter déjà à un contexte sanitaire déjà très anxiogène, cette histoire. Pour ma part et avec mes patients, moi j'ai une approche très pragmatique et globale qui est basée vraiment sur les grands principes de la naturopathie, à savoir limiter au maximum les polluants dans notre alimentation, mais aussi dans notre environnement, dans nos activités régulières, et de pratiquer régulièrement des cures de détoxication et de détoxination. Il vaut mieux être accompagné d'un thérapeute qui saura choisir la cure adaptée à chacun. Et puis dans son hygiène de vie globale, d'avoir une activité physique régulière, de gérer son stress, parce que nous avons les mécanismes biologiques qui permettent d'éliminer des toxines. Faut-il encore apporter au corps ce dont il a besoin pour le faire et d'avoir un mode de vie qui permet de le faire.
Merci beaucoup Marie Moati, nutritionniste à Genève, pour vos explications et ces conseils pratiques. La grève du climat vaut est-elle espionnée par les autorités? C'est la crainte exprimée par ces militants, militantes, dans une lettre ouverte à la conseillère d'État Béatrice Métraux. La ministre de l'Environnement, Julie Rosis, leur a répondu et elle s'en défend.
Dans sa réponse envoyée hier et puis que nous nous sommes procurés, Béatrice Métraux réfute en effet toutes les accusations de la grève du climat. Alors un petit rappel des faits pour commencer. En mai dernier, la police visitait le domicile de 3 membres de la grève du climat sur ordre du ministère public de la Confédération et saisissait du matériel informatique. Motif de cette perquisition, une lettre appelant à la grève militaire. La grève du climat vaut et certains élus dénonçaient alors un acte disproportionné contraire à la liberté d'expression. Aujourd'hui, elle accuse un inspecteur du service de renseignement cantonal d'avoir pris part lui aussi à cette perquisition. La grève du climat craint donc d'être surveillée. Elle réclame des explications.
Des explications qui sont donc venues de Béatrice Métraux. Qu'est-ce qu'elle leur a répondu?
Que l'inspecteur en question était de permanence, il a agi comme inspecteur de la police judiciaire et non comme collaborateur du service de renseignement cantonal. Le matériel informatique saisi a été emporté le jour même à Berne et n'a jamais été examiné par les policiers vaudois. Aussi, conformément à la loi, le service de renseignement n'a jamais collecté d'informations sur la grève du climat vaud, ni d'ailleurs sur aucun autre mouvement ou parti politique.
Et ça suffit, Julie, à rassurer les militants?
Globalement, oui, mais pour Kelmi Martinez, l'un des activistes perquisitionnés, il est illusoire de penser qu'un inspecteur, juste en changeant de casquette, puisse oublier et ne pas utiliser ce qu'il aurait pu voir. Et puis, de telles perquisitions ont dans tous les cas, selon lui, un effet dissuasif sur les militants et c'est inquiétant du point de vue de la liberté d'expression. La grève du climat tient à ce titre à rappeler son engagement contre la nouvelle loi sur les mesures policières acceptée en juin dernier par le peuple.
Merci Julie Rosis. Il faudra désormais rouler au pas à Sion. La ville passera l'an prochain aux 30 km/h de jour comme de nuit. Un abaissement de la vitesse qui concerne les routes les plus fréquentées de la capitale valaisanne. L'objectif, Romain Carupt, c'est de chasser le trafic de transit du centre-ville.
Ces voitures qui traversent la ville sans s'y arrêter, Sion n'en veut plus. Pour diminuer le bruit, les bouchons et les accidents, ou encore pour augmenter le confort des cyclistes. En abaissant la norme de 50 km/h à 30, la municipalité espère que les véhicules se mettront à privilégier l'autoroute au sud de la ville. Car aujourd'hui, les automobilistes choisissent trop souvent de passer par le cœur de la cité par habitude, sans pouvoir dans les faits rouler à 50 km/h à cause d'un trafic congestionné. Les panneaux 30 visent donc surtout à susciter un changement d'habitude, ce qui n'ira pas forcément de soi. Le nouveau concept basé sur un transit autoroutier induira des détours qui rallongeront le trajet, voire le temps de parcours. Rouler plus vite, plus longtemps, pas de quoi diminuer non plus la pollution gagnée sur un trafic fluidifié au centre-ville. La ville de Sion le reconnaît, un usage accru des transports publics et du vélo serait plus efficace. l'abandon des places de parc gratuites pour les employés aussi. Et si l'État du Valais suivait la voie ouverte par la ville, l'appel lancé par le président de Sion ce matin.
Un appel conforté en tout cas par cette étude du Bureau de prévention des accidents paru ce matin. 52% des Suisses seraient pour une limitation à 30 km en ville en dehors des principaux axes de circulation. Le Conseil fédéral rejette l'initiative pour des soins infirmiers forts en votation le 28 novembre prochain. Ce n'est pas à la Confédération de légiférer sur les conditions de travail et la rémunération du personnel soignant. Le ministre de la Santé, Alain Berset, a défendu ce point de vue ce matin à Berne. Mais le gouvernement et le Parlement veulent renforcer les professions de soins grâce à son contre-projet indirect. Bonjour Camille Degotte.
Bonjour.
Vous avez suivi ce point presse ce matin. Alain Berset a décrit ce projet comme étant très ambitieux.
Et oui, les autorités rejettent certes l'initiative, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne pensent pas qu'il faut améliorer la situation du personnel soignant. Et ça, c'est possible, selon Alain Berset, grâce à ce contre-projet indirect qui reprend les revendications principales de l'initiative.
J'aimerais vous rappeler quand même qu'une des revendications principales de l'initiative, c'est la facturation directe à l'assurance maladie. C'est un élément qui, dans le contre-projet, devient une réalité. Il y a beaucoup d'autres éléments qui ont été ensuite mis en place, notamment aussi dans toute la question de réinsertion professionnelle, de collaboration entre les catégories de profession, sans parler de tout ce qu'on a également réalisé pour la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale. Allez me trouver dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines un contre-projet qui s'engagerait aussi fortement que celui-là.
L'initiative demande aussi que la Confédération garantisse de bonnes conditions de travail, des salaires appropriés et des perspectives d'évolution professionnelle. Mais selon les autorités, on ne peut pas régler ça au niveau fédéral. Pour Martin Pfister, conseiller d'État et représentant des ministres cantonaux de la Santé, cette responsabilité incombe aux institutions.
Ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment dans le propre intérêt des établissements de payer des salaires justes, qui soient aussi adaptés au classement des différents métiers et que ce soit ressenti comme juste et correct. Ça semble évident que les salaires doivent être bons. Quand on voit que le marché des soins est très tendu, on a du mal à trouver du personnel compétent.
Martin Pfister en appelle donc à un dialogue au niveau cantonal entre les partenaires sociaux. Si le peuple dit non à l'initiative le 28 novembre et qu'aucun référendum n'aboutit, le contre-projet sera automatiquement adopté.
Le procès en appel de Pierre Maudet a repris ce matin. L'ancien conseiller d'État genevois doit répondre d'acceptation d'un avantage pour son voyage offert à Abu Dhabi en 2015, mais aussi pour le financement d'un sondage politique. Raphaël Leroy, on vous retrouve au palais de justice. La seconde partie de l'audition de Pierre Maudet a pris fin ce matin.
Oui, après avoir été interrogé hier après-midi par la présidente du tribunal, l'ancien conseiller d'État a dû répondre aux questions du ministère public et de la Défense. Rappelons que Pierre Maudet comparait aux côtés de 3 autres accusés, son ancien bras droit et 2 amis entrepreneurs qui l'ont aidé à organiser le voyage. L'audition a duré un peu plus d'une heure et a porté en grande partie sur le caractère mixte du séjour émirati.
Et qu'est-ce qu'on entend par ce caractère mixte ?
Alors, le voyage à Abu Dhabi a été réalisé en famille, mais avec son bras droit. S'agit-il donc d'un voyage officiel ou d'un voyage privé ? Cette question, évidemment, est au cœur de l'avantage indu que Pierre Maudet est accusé d'avoir reçu il y a 6 ans. Le parquet a d'abord questionné l'ancien élu sur ce sujet, puis c'est au tour de l'un de ses avocats, maître Grégoire Mangeat, s'est alors évertué en questionnant son client à déconstruire la thèse du tribunal de première instance qui fixait des conditions strictes pour considérer un voyage comme officiel. Mais pour Pierre Maudet, il n'y a pas de situation absolument pure.
Les liens entre l'ancien conseiller d'État et l'un de ses amis entrepreneurs ont aussi été abordés, Raphaël.
Oui, ici, il s'agissait pour la défense de Pierre Maudet de déconstruire, encore une fois, l'idée d'une relation intéressée entre les deux hommes. L'ex-magistrat décrit une amitié simple, sans enjeu. À aucun moment, jure-t-il, il ne m'a donné le sentiment d'être dans le calcul. Mais sur question du tribunal, Pierre Maudet reconnaît que l'autre facette du personnage, celui qui multiplie les sollicitations jusqu'à vouloir rencontrer le pape, relève d'une posture qui ne me convient pas. Le procès se poursuit cet après-midi.
Procès que vous suivez pour nous, Raphaël Leroy. Si vous avez une case postale, elle vous coûtera désormais au minimum 120 francs par an. Vous l'avez peut-être appris par courrier, justement, puisqu'une lettre du géant jaune a été envoyée. Lettre qui explique, Gaël Klein, que la Poste s'adapte aux conditions cadres de l'évolution numérique.
Et oui, c'est par un courrier envoyé le 4 octobre que la Poste informe de très nombreux clients qu'elle leur fera payer leur casse postale dès le 1er janvier 2022. Dans cette lettre, elle mentionne que le besoin dans ce domaine est en recul dans toute la Suisse et face à l'évolution numérique, le géant jaune continue à optimiser ses produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seuls 45% des 274 000 casse postales que compte la Suisse sont utilisées. L'objectif de la Poste est de couvrir les coûts. Des casse postales, c'est aussi des mètres carrés de surface à financer. Leur nombre va donc diminuer. Dès l'année prochaine, une casse postale de base vous sera facturée 120 francs par année alors qu'elle était gratuite jusqu'à maintenant. Avantage pour ceux qui recevaient très peu de courriers, soit moins de 5 envois par jour, ils paieront 620 francs par an contre 240 francs comme c'était le cas depuis quelques années. On retiendra aussi que les casse postales resteront gratuites pour les clients qui se sont vus imposer leur utilisation par la Poste, par exemple parce qu'ils habitent dans des endroits éloignés. La nouvelle tarification des casse postales avait été annoncée fin août en même temps que l'augmentation du tarif des lettres prévue début janvier. Le diable se cachant parfois dans les détails, la fin de la gratuité des casse postales était passée au second plan. De nombreux détenteurs de casse postales la découvrent aujourd'hui. Ils ont jusqu'à fin novembre pour se décider à la conserver ou pas.
Et merci Gaëlle Klein d'avoir vous aussi vu ce diable caché dans les détails. Elle a sauvé son siège de justesse. La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, va rester en place. Le conseil d'administration l'a confirmé à son poste hier soir après plusieurs semaines de tourmente. Virginie Langeroc.
La dirigeante a en effet sauvé son poste, mais après des semaines d'enquête difficiles, on lui reprochait d'avoir modifié un classement pour favoriser la Chine, et ce alors qu'elle était encore à la tête de la Banque mondiale. Ce sont des faits qu'elle a toujours niés. La question de son maintien à la tête du FMI était ainsi posée depuis la mi-septembre. Et finalement, après 8 réunions et un examen complet, eh bien les États-Unis se sont ralliés aux Européens qui souhaitaient maintenir la directrice à son poste. L'affaire est donc retombée avec la volonté américaine de préserver l'intégrité des institutions financières internationales. Autrement dit, pas le moment de tout chahuter. Le Trésor américain a tout de même prévenu qu'il évaluera tout fait nouveau, je cite. Cette affaire a en tout cas profondément divisé les 24 membres du conseil d'administration du FMI qui veut se réunir prochainement pour examiner d'éventuelles mesures supplémentaires et s'assurer donc que ce type d'incident n'ait plus lieu. Le FMI qui publie justement aujourd'hui ses prévisions économiques mondiales et qui se doit donc impérativement de préserver toute sa crédibilité.
Des résultats sans surprise en Irak après les élections législatives de dimanche. Le courant sadriste du religieux nationaliste chiite Moqtada al-Sadr sort gagnant. Il remporte plus de 70 sièges sur les 329 du Parlement. Une victoire en grande partie due à l'abstention. Anne-Sophie Lemoff.
Moqtada al-Sadr, qui n'a jamais brigué de mandat, a fait de la lutte contre la corruption et retour en Irak souverain ses chevaux de bataille. Le taux d'abstention très bas a largement profité aux sadristes, cette frange la plus populaire et religieuse d'Irak. Par leur participation massive, les partisans de Moqtada al-Sadr ont ainsi piétiné leur rivaux chiite pro-Iran Dehached el-Shaabi. Conséquence, cette force de 150 000 hommes en lutte contre Daesh est intégrée aux forces irakiennes et suit un net recul au Parlement. Percée cependant pour l'état de droit de l'ancien premier ministre chiite Nouri al-Maliki avec 37 sièges. Les chiites confirment leurs assises sur un parlement irakien toutefois fragmenté. Même système, même parti traditionnel, et pour ne rien changer, la lutte pour le poste de premier ministre et répartition des ministères s'annonce intestine. Anne-Sophie Lemoff, RTS Info, Bagdad.
Objectif 2030, Emmanuel Macron a détaillé ce matin son large plan d'investissement pour la France de la prochaine décennie. Des annonces qui permettent au président de se positionner dans la course de 2022, celle de la prochaine présidentielle. Analyse Alexandra Bay.
Baptisé France 2030, le plan ambitionne de contrer le récit du déclin économique, souvent martelé par les opposants d'Emmanuel Macron. D'emblée, le président français a placé la planète au cœur de ce projet d'investissement de viser à 30 milliards d'euros sur 5 ans. Il renoue donc avec sa posture de dirigeant de la transition écologique. La France doit devenir leader de l'hydrogène vert, dit-il, tout en misant sur l'énergie nucléaire. Emmanuel Macron parie sur la réindustrialisation du pays, mais axé sur l'innovation et l'écologie. Les deux ne s'opposent pas, on ne peut pas choisir, a-t-il lancé devant un parterre de chefs d'entreprise et de ministres. Pour le président, en quête de réélection, mais pas encore candidat, il s'agit de tourner la page de la crise du Covid, déjà amorcée avec un plan de relance à 100 milliards. Grâce au taux d'intérêt bas, c'est le moment d'investir, a renchéri le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Une réponse aux critiques sur l'endettement colossal du pays, qui sera un des angles d'attaque de la droite durant la campagne présidentielle à venir. Alexandra Bay, RTS Info, Paris.
Il y en a d'autres qui regardent aussi vers 2022 sur les terrains de foot. Cette fois, l'équipe de Suisse à la recherche d'une deuxième victoire en trois jours dans ses matchs de qualification pour le Mondial. Après son succès samedi dernier face à l'Irlande du Nord, elle est défiée ce soir par la Lituanie à Vilnius. Bernardin Lehmann, vous allez suivre ce match. Et à nouveau, ce soir, la Suisse aura besoin de son moteur Shaqiri.
Oui, Sherdan Shaqiri souffle le chaud et le froid en équipe de Suisse. Il est soit le fantôme, car absent, soit omniprésent. Il n'avait par exemple pas participé une seule minute à la qualification au dernier Euro. Il n'était pas présent non plus au rassemblement de septembre. Il était venu deux jours en réalité avant de repartir dans son club à Lyon, car il était hors forme. Mais quand il est là, il y a des étincelles. On l'a vu présent par exemple sous les deux buts samedi contre l'Irlande du Nord. On remarque vite son coup de patte, sa technique que d'autres joueurs doivent lui envier. Bref, Shaqiri, quand il est présent, est indispensable dans le secteur offensif.
Très présent sur le terrain, mais en dehors aussi, il a fait parler de lui volontairement et même involontairement, Bernardin, ces derniers jours.
Oui, il y a déjà eu cette campagne de vaccination qu'il a soutenue en expliquant que lui est vacciné. Un message en albanais également parce qu'il a expliqué être conscient que les communautés, notamment du Kosovo en Suisse, étaient globalement assez réticentes au vaccin. Et puis, il y a eu ce couac de sécurité samedi au stade de Genève avec ce militant qui est venu lui mettre une veste de Luceka, l'armée de libération du Kosovo, contre son gré. Bref, Shaqiri, souvent au centre de l'attention. Ce soir, c'est le football et seulement le football qui comptera. Le joueur de Lyon sera précieux sur le terrain synthétique de Vilnius.
Lituanie Suisse en direct de Vilnius, c'est ce soir 20h45 à suivre bien sûr sur la première et sur RTS2. Et après le foot, place au tennis.
Le 12-30,
Yann Amedrou.
Ça pourrait être le nom d'une créature mythologique à deux têtes. On n'en est pas très loin avec ce Fedal, ce mot inventé par les passionnés de tennis pour parler des matchs entre deux légendes vivantes, Federer, Nadal. Fedal qui donne son titre au livre de nos invités Rémi Bourrière et Christophe Perron. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex de Paris. Fedal, paru chez Flammarion, raconte donc en 40 rencontres ce duo-duel Roger-Rafa qui a marqué le tennis de ces 15 dernières années. Vous parlez même d'un couple au début du livre qui va vivre sa première idylle en mars 2004 à Indian Wells. Federer-Nadal, c'est une histoire d'amour plus que de rivalité.
Alors, histoire d'amour, c'est peut-être un petit peu fort hein, parce que Federer-Nadal peuvent pas non plus être des amis, hein, ça reste des rivaux. En revanche, c'est vrai que ça a été une rivalité quand même, c'est une rivalité parce qu'elle est toujours en cours, assez sage entre guillemets entre les deux, dans le sens où c'est deux joueurs qui se sont toujours appréciés, respectés, et ça depuis le début, depuis leur toute première rencontre qui date de 2004. Donc c'était un double, hein, la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était un double à Indian Wells en 2004. Et c'est vrai qu'ils avaient eu l'occasion de discuter à ce moment-là, et le courant est tout de suite, semble-t-il, passé entre les deux. Federer qui est quelqu'un qui a toujours été intéressé en fait par les petits jeunes qui arrivent sur le circuit. Forcément, il avait entendu parler de Rafa et donc c'est vrai qu'il a il s'est tout de suite intéressé à ce gamin. Il l'a tout de suite adoubé à la fois par son niveau de jeu et par son comportement. Donc c'est vrai que voilà, Federer a tout de suite adoubé Rafa. Il y a tout de suite eu beaucoup de respect, de complicité entre les deux, ce qui n'a pas empêché quelques petits moments de tension bien sûr, mais il n'y a pas vraiment eu d'orage.
Beaucoup de respect dès le début. Un an plus tard, ils se retrouvent les deux en demi-finale de Roland-Garros pour leur premier affrontement en Grand Chelem. Et cette fois, il n'est plus question d'un duel intergénérationnel entre le maître et son padawan. Non, désormais, le Suisse et l'Espagnol se regardent les yeux dans les yeux. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. C'est de nouveau Nadal qui gagne sur son terrain de prédilection, la terre battue. Ça veut dire que déjà, là, les Fedal deviennent des classiques.
C'est en cours en tout cas, voilà, c'est quand même le début de la rivalité, mais effectivement, voilà, il y a ce côté très étiqueté, cette opposition de style qui fait qu'on peut facilement s'identifier à Nadal ou Federer. En plus, ils ont chacun leur surface, leur chaise gardée, à Nadal la terre battue, à Federer le gazon, et effectivement, là, vous parlez de cette demi-finale, c'est un peu le début, voilà, de cet âge d'or du tennis avec des Federer-Nadal qui vont se multiplier presque tous les mois, toutes les semaines en finale des plus grands tournois, avec notamment 2006, 2007, où, voilà, comme je l'ai dit, ils seront toujours à la lutte pour les plus grands titres.
Et vous dites, il y a les Nadaliens d'un côté, les fédéristes de l'autre. Pour écrire ce livre à deux, il fallait un fédériste, un Nadalien. Qui est qui
La question piège.
Alors, bon, on va peut-être décevoir les nombreux Nadaniens en Suisse. La RTS et les quelques fédéristes, il y en a peut-être quelques-uns quand même, mais on a choisi le parti de la neutralité journalistique. Hein. Le but, c'était pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Par contre, ce qu'on a essayé de retranscrire dans ce livre, c'est la passion qui anime les fans, aussi bien des fans de Nadal que de ceux de Federer, parce que c'est aussi ça qui fait vraiment le sel de cette rivalité, c'est cette passion qui est vraiment incroyable.
Et ça va au-delà des fans, des amateurs, des férus de tennis. Hein, vous dites, les matchs Federer-Nadal, ce sont des moments entrés dans l'histoire du tennis, dans le patrimoine public de chacun d'entre nous. C'est rentré dans nos mémoires collectives.
Oui, j'aime bien cette expression, le patrimoine collectif, parce qu'en fait, c'est un marqueur temporel aussi, je pense, les Fédales, en tout cas pour les gens qui suivent le tennis, et je pense que pour les Suisses aussi, qui ont suivi Federer depuis le début, et ça renvoie aussi parfois à son histoire personnelle, c'est-à-dire que je pense que les fans de Federer, à mon avis, se souviennent de ce matin de janvier, quand Federer a remporté l'Open d'Australie 2017, à mon avis, ils se rappellent d'où ils étaient, de ce qu'ils faisaient, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre, hein. Je pense que c'est pour que les fans puissent venir picorer quelques petits souvenirs de cette rivalité avec évidemment un peu de nostalgie.
Et pour ce livre, vous avez regardé plus de 100 heures d'affrontement Nadal-Federer. S'il ne devait en rester qu'un, le Fédal absolu, le match que vous pourriez vous repasser en boucle et en boucle.
Ah, je pense quand même que le plus mythique, ça reste la finale de Wimbledon 2008. C'est pas forcément celui que les Suisses retiendront le plus, parce que c'est forcément une des défaites les plus marquantes, hein, de la carrière de Federer.
Qui perd sur
Mais à mon avis, ça reste
Wimbledon,
quand même leur monument. Ouais, la finale de Wimbledon 2008, ça reste quand même peut-être le match le plus célèbre, en tout cas, et le plus symbolique de leur rivalité. C'est peut-être pas forcément c'est un match qui dure 4h48, hein. À l'époque, c'est la plus longue finale de l'histoire de Wimbledon, qui a été dépassée ensuite. Mais donc c'est peut-être pas un niveau leur plus beau match en termes de niveau de jeu pendant les 5 heures. Ça a été un niveau vraiment exceptionnel, mais surtout pendant les deux derniers sets. Par contre, c'est vrai que s'il y a une histoire autour de ce match qui est fantastique, avec ce scénario complètement dingue, cette fin de match à la bougie, on n'y voit plus rien, et puis finalement Nadal, ben voilà, qui réussit l'exploit d'aller chercher Federer dans son jardin, sur ses terres.
Beaucoup ensuite, de dramaturgie autour de ce match. Vous disiez tout à l'heure beaucoup de respect et d'admiration entre les deux. Il y a eu des moments aussi de rivalité, des tensions, des brouilles. Vous en évoquez quelques-uns dans votre livre.
Oui, effectivement. Bon, après, je pense qu'il y a un respect, même si on n'est pas dans l'intimité de leur relation quand même, mais je pense qu'il y a un respect non fin entre ces deux légendes. Après, ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. Il y a eu quelques brouilles. Il y en a une qui est assez connue lors de la finale de Rome en 2006. C'est un match hyper accroché, magnifique d'ailleurs. Et il y a ce shut up Tony prononcé par Roger à l'encontre en fait de Tony Nadal, qui n'a pas cessé de coacher Rafael Nadal pendant le match. Donc
c'est son
Roger Federer qui sort un peu de ses, voilà, c'est ça. Et après, Nadal qui réagit assez vivement en conférence de presse. Donc là, c'était la première brouille publique. Il y en a eu d'autres qui ont été peut-être un peu moins médiatisés, notamment sur des questions de gouvernance du tennis. Mais je pense qu'ils ont à chaque fois réussi à se rabibocher, si je puis dire, parce qu'ils ont aussi des valeurs communes, peut-être une éducation commune. C'est ce que me disait par exemple Marc Rosset qui les connaît bien, c'est ce socle commun qui fait que leur relation est empreinte de respect.
C'est donc 40 matchs au total que vous passez en revue dans ce livre. Au compteur, avantage Nadal, 24 victoires contre 16 pour Federer. Est-ce que ça compte, ce chiffre-là?
Oui, ça compte forcément, hein. Quand on regarde les chiffres, il est incontestable qu'ils sont quand même à l'avantage de Nadal. Après, la question sous-jacente derrière tout ça que vous allez peut-être me poser, c'est est-ce que Nadal est meilleur que Federer? Et c'est là-dessus que c'est quand même assez compliqué de répondre, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde le détail de leur face-à-face, on s'aperçoit quand même qu'ils se sont affrontés le plus souvent sur terre battue et sur dur extérieur qui est devenu quand même une surface extrêmement lente avec les années. Donc c'est deux surfaces quand même qui sont le plus favorables à Rafa. On peut imaginer que si Federer et Nadal avaient existé dans les années 60, 70, où quasiment tous les tournois se jouaient sur gazon ou sur des indoors ultra rapides, Federer qui aurait peut-être remporté beaucoup plus de duels que ça, mais voilà, c'est aussi le reflet de leur temps. C'est une époque où le tennis va moins vite et ça avantage plutôt Rafa.
En un mot, pour finir, espoir de voir un 41e match Nadal-Federer. Vous l'avez encore cet espoir-là, tous les deux?
Bien sûr, je pense qu'avec ces deux légendes, il faut jamais dire jamais, parce qu'ils nous ont prouvé à maintes reprises leur capacité de rebond. Federer, il y a plus de 10 ans déjà, on parlait de son déclin, il est revenu à plus de 35 ans, il a gagné plusieurs grands chelems. Nadal, combien de fois il a eu des blessures graves, à chaque fois il est revenu et il a gagné. Donc
l'espoir est encore là.
Surtout pas les enterrer. Et s'il y a un 41e qui se profile, on est prêt avec Rémi pour le rédiger.
Eh bien, on sera au rendez-vous. Voilà. Rémi Bourrière, Christophe Perron, votre livre Fédal, Federer, Nadal, c'est paru chez Flammarion. Merci à tous les deux d'avoir été quelques minutes avec nous.
Merci.
La météo, après une matinée bien ensoleillée, les nuages font leur retour cet après-midi avant l'arrivée des précipitations la nuit prochaine. 14 degrés au plus chaud cet après-midi, une faible bise sur le plateau. Pour demain, ce sera de nouveau nuageux. Quelques averses le matin, de belles éclaircies attendues sur le Léman et en Valais. L'après-midi s'annonce assez ensoleillé, 6 degrés le matin, 11 à 14 l'après-midi.
La météo avec Café Kiko d'Oro et ses capsules d'aluminium compatibles kikodoro.ch.
C'est la fin de ce 12h30, il est 13h.